En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
L'Église nous appelle à nous réjouir parce que un certain nombre d'entre nous, de notre peuple, de notre famille, sont aujourd'hui face avec Dieu et ils sont dans le bonheur parfait. Ils sont saints. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on se pose la question, on se réinterroge sur ce que veut dire saint. Parfois, on a une image, ça a été la mienne, hein. Quand on pense saint, on pense vitrail. Et vitrail, moi je ne sais pas pour vous, mais moi ça ne me donne pas tellement envie d'y être. C'est un peu figé. On dit même que l'éternité, c'est un peu long, surtout vers la fin. Donc peut-être que si l'Église nous invite à vouloir être saint, c'est que ça signifie un peu autre chose. C'est peut-être pas figé, justement. Alors qu'est-ce que c'est qu'être saint ? C'est d'abord un acte de notre part et c'est un acte de contemplation. C'est regarder Dieu dans sa beauté, dans sa bonté, dans ce qu'il est même. Alors vous me direz, oui mais Dieu ne change pas, et c'est vrai. Alors au bout d'un moment on risque de s'ennuyer quand on aura bien vu. Mais évidemment, on peut repenser à nos expériences lorsqu'on écoute une musique du Bach, du Mozart ou je ne sais. Plus on l'écoute, et pourtant elle ne change pas, plus on l'écoute, plus on l'apprécie, plus on la goûte. C'est vrai avec le vin aussi. Si je ne connais pas plus un bon vin, plus je le goûte, plus je l'apprécie. Et c'est vrai, combien plus dans la relation et dans la relation d'amour. En fait, quand j'aime, quand je suis en relation, plus j'aime et plus je suis en relation, plus je m'adapte à l'objet de ma contemplation. Il y a quelques jours, nous étions à Bourg-en-Bresse avec quelques confirmants. Et nous avons rencontré un jeune couple de 70 ans de mariage. Un jeune couple, ça l'était vraiment, parce qu'à un moment, lui nous a dit, j'ai 94 ans, et j'ai l'impression que chaque jour je l'aime un peu plus, je n'aurais jamais imaginé l'aimer à ce point-là quand je me suis marié. Elle est la chair de ma chair. Alors si cet amour-là est possible sur la terre, et je pense qu'il la contemplait, et pourtant elle avait aussi 94 ans, et elle commençait à avoir les atteintes de l'âge, et en particulier un début d'Alzheimer. Et donc si c'est un amour comme cela est possible sur la terre, combien plus? Combien plus lorsque nous regardons celui qui est la source de tout amour? Alors non, les saints ne sont pas figés et les saints ne s'ennuient pas. Ils contemplent et ils aiment. Alors là, du coup, peut-être que ça peut nous donner envie. Alors comment devenir saint? Est-ce que c'est... Ouais. Vous savez, on partage tous cette expérience. On a une petite tentation, voire une grosse, qui est de se centrer sur nous-mêmes et de faire de nous la référence de toute chose. Alors, ma quête du bonheur devient souvent, ou se limite souvent, à une recherche du confort. Et nous savons bien que ce n'est pas ça. Vous savez, il y a une déclaration des droits de l'homme qui a été publiée. Voilà. Dans ces droits de l'homme, il n'y a pas de droit au bonheur. Non. On a droit à plein de choses. Mais il n'est pas dit qu'on a droit au bonheur. Et d'ailleurs, les droits ne sont même pas ordonnés. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi on a ces droits. On a droit à s'exprimer, on a droit à trouver les moyens pour se soigner, on a droit à une éducation, on a droit... Mais pourquoi? Et en fait, c'est bien pour cela, c'est bien pour le bonheur que ces droits ont été proclamés. Et on sait bien que lorsque je pourrai profiter de tous ces droits-là, le bonheur ne me sera pas garanti pour autant. Et à l'inverse, nombre de personnes n'ont que peu de ces droits, et pourtant eux, ils sont dans le vrai bonheur. Alors du coup, il faut encore s'interroger. C'est quoi cette sainteté? Sainteté, ou saint en hébreu, c'est kadosh. C'est ce kadosh, 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 c'est le terme qui est repris trois fois lorsque Isaïe rentre dans le temple de Jérusalem et il rencontre les chérubins. Et les chérubins ou chérubins chantent « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». C'est ce que nous allons reprendre tout à l'heure. Le saint, c'est celui qui est tout autre, complètement différent de nous, tellement différent qu'on ne peut pas le rencontrer. On peut l'imaginer, on peut avoir conscience de sa présence, mais il n'est pas de notre ressort, il n'est pas de notre pouvoir de le rencontrer. Le fait même qu'il existe, cela nous décentre. Et cela fait que ce n'est plus nous qui sommes la référence absolue de toute chose, de tout bien. Nous pouvons nous tourner vers lui, et c'est lui qui est la référence. Alors, ça évite de tomber dans la tyrannie du moi. Je ne suis plus mon propre tyran, mais je deviens un serviteur ordonné à une autre puissance, à un autre pouvoir, à ce saint. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ce saint-là, il ne nous donne pas tellement envie d'aller vers lui, alors qu'il a tout pour plaire. Alors ce saint-là, qui s'est révélé dans la Bible, il est venu se faire proche de nous. Il se présente à nous comme un père. Il se présente à nous comme un fiancé, comme un époux, comme un serviteur et comme un ami. Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle mes amis. On peut donc établir une relation avec lui, tellement qu'il nous a donné son Fils, qui est homme, pleinement homme. Et donc, tôt ou tard, dans l'arbre des généalogiques, on est cousin avec Jésus. Nous sommes vraiment de sa famille. Et parce que nous sommes de sa famille, nous pouvons en vérité dire à Dieu, Père. Et pour cela, pour pouvoir établir cette relation, il va falloir que j'accepte ce décentrement, que j'accepte de ne pas être la référence. Il va falloir que j'accepte de montrer, comment dire, mes manques, ma vulnérabilité. C'est bien le cœur même de ces béatitudes. Bienheureux. Bienheureux ceux qui sont pauvres de cœur, c'est-à-dire qui considèrent, qu'ils perçoivent qu'ils ne sont pas pleins d'eux-mêmes, mais qu'ils ont un grand creux dans le cœur. Bienheureux ceux qui pleurent, qui souffrent, qui sont dans la détresse, qui sont persécutés, qui ont faim et soif. Bienheureux ceux qui sont en manque. C'est surprenant tout de même. Et en ouvrant mon cœur à cette présence, Dieu vient s'installer parmi nous, Dieu vient s'installer en nous. Il s'installe et il vient combler donc mes manques et mes vulnérabilités. Et en disant cela, on se dit « Ah, donc c'est un médicament parfait !» Mais non, Dieu n'est pas un opium. Dieu, en venant combler mes manques, il ne me rend pas lisse. Il aurait peur, trop peur de me transformer en sainte vitrail. Dieu, pour venir combler mes manques, vient éprouver ses manques, ses détresses, ses souffrances avec moi. C'est ça, Jésus. Il les éprouve avec moi, et par le fait même qu'il est le Christ, le Sauveur, il vient faire de ces manques, de ces creux qui sont en moi, des sources. Des sources. Et alors nous pouvons devenir, telle la Samaritaine, une source d'eau jaillissante pour le monde. Quelques exemples. Une maman voit son fils tourner très mal. Elle en est désespérée. Elle pleure et elle crie vers Dieu. Elle ne verra jamais vraiment son fils s'en sortir. Et elle mourra plutôt triste. Elle a quand même vu frémir des lueurs d'espoir. Cette maman, c'est Sainte Monique, la maman d'Augustin. Un autre, touché par le cœur de Jésus, il veut consacrer sa vie tout entière à lui. Il se retire dans le désert et crée une communauté. Toute sa vie, il est seul. Il va éprouver cette solitude au plus profond de tout son être. La détresse de Charles de Foucault est patente. Et pourtant, on sait le fruit qu'il porte aujourd'hui. Nous ne pouvons pas mesurer la fécondité de l'œuvre de Dieu en nous, qui vient s'installer dans nos souffrances, dans nos détresses, dans nos nuits. Une jeune femme rentre dans une communauté religieuse pour enseigner en Inde. Elle a de grandes grâces. Elle ressent vraiment la présence de Dieu. Un jour, elle ressent elle entend cet appel tout particulier à venir s'occuper des plus pauvres. Et elle s'engage. Elle s'installe toute seule et très vite, elle est rejointe par quelques sœurs indiennes. Et c'est les missionnaires de la charité. Quasiment au moment où elle s'installe dans cette villa de renoncement à toute richesse, à tout confort, elle ne ressent plus la présence de Dieu. Elle ne la ressent tellement plus qu'elle aura même la conviction intime que Dieu n'est pas. Et elle a pourtant fondé toute sa vie sur cette conviction que Dieu aime. Pendant 10 ans, elle sera dans le noir. Au moment où ses sœurs s'engageront dans leur vœu perpétuel, elle obtiendra une grâce, une confirmation, lui disant aussi « c'est bien le bon chemin ». Et puis à nouveau, la lumière se rééteindra pendant 50 ans, et c'est Mère Teresa. Dieu vient dans nos souffrances, dans nos détresses, dans nos nuits, dans nos malheurs. Non pas pour nous en guérir comme s'il était un Superman, mais pour nous en sauver, en nous accompagnant. Alors c'est sérieux tout cela, hein? C'est sérieux parce que c'est toute notre vie que nous engageons. C'est pas seulement les 10, 20, 30, 40 ou 50 ans qui nous restent à vivre, ou un peu plus, j'espère. Non, c'est une vie éternelle. Et nous sommes tous appelés à cette sainteté. Nous sommes tous appelés à regarder Dieu face à face, comme le disait le psaume. Face à face. Il me regarde et je le regarde. Il m'aime. Et je l'aime en retour. Et dans cette contemplation, je change. Et je suis chaque minute mieux adapté à ce qu'il est, lui, Dieu. Et comme il est infini, je ne me lasserai jamais. Si nous voulons accueillir cette sainteté que Dieu nous propose, qu'il nous propose à tous, sans exception, c'est le Concile Vatican II qui nous le rappelle. Nous sommes tous appelés à la sainteté, à cette ressemblance avec Dieu, à force de le contempler. Mais cette sainteté, si nous nous appuyons sur notre propre force, nous n'y arriverons pas. Nous aurons vite tendance à nous recentrer sur nous-mêmes et à nous satisfaire de tout petits plaisirs et de tout petits conforts qui ne répondent pas à l'appel de notre cœur, ni même à l'appel de notre intelligence. Alors il s'agit de se reconnaître pauvre, petit, faible, et de l'accueillir, lui, Jésus, Sauveur. Il vient dans quelques instants, dans cette Eucharistie, dans cette communion, nous serons pleinement membres de son corps. Par lui, avec lui et en lui, nous serons pleinement saints, et alors nous serons la gloire et la louange pour notre Dieu. Tout notre être, gloire et louange pour notre Dieu. Alors notre vie, peu à peu, ça ne se fera pas d'un coup, d'un seul, ça ne se fera pas magiquement, mais peu à peu, nous nous adapterons à ce qu'est Dieu et nous pourrons pleinement vivre d'amour. Nous pourrons témoigner de ce qu'il est. Et croyez bien, si nous voulons la paix, la justice sur notre terre, il n'est pas d'autre moyen. Il faut que nous acceptions de changer. Il faut que nous acceptions de ressembler au Christ. Il faut que nous acceptions d'être un reflet, un canal de l'amour de Dieu pour ce monde.